La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous, Alexis.
Bonjour, Mathieu.
Est-ce
bonjour
que vous
Sophie.
Avez des souvenirs de lecture de Lewis Carroll?
Ah oui, j'ai plein de souvenirs de lecture de Lewis Carroll et d'Alice, bien sûr. J'ai des souvenirs d'enfance. Je me souviens très bien du volume que j'avais à l'époque, de ses illustrations. Je me souviens aussi, effectivement, que ce livre me faisait un peu peur, en effet. Je sentais que derrière, il y avait des choses qui étaient hors de ma portée. Et puis, par ailleurs, je dois vous confesser que j'étais sans doute un peu amoureux du personnage d'Alice et notamment de son incarnation dans l'adaptation qu'on a faite Walt Disney.
Vous la préférez grande, vous la préférez petite?
Écoutez, je l'aimais beaucoup blonde. Voilà. Ah. Je la trouvais tout à fait jolie. J'avais tout à fait envie d'aller la sauver dans cette forêt où la malheureuse est perdue. Et puis j'ai des souvenirs aussi de lecture adolescente, puisque en fait, adolescent, moi je m'intéressais un petit peu aux contre-cultures des années 60, 70. Et vous savez, Lewis Carroll était une figure en fait vénérée par ses membres de la contre-culture.
Côté psychédélique, en effet,
exactement,
dans les illustrations.
Voilà, la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit, qui est vraiment une référence directe à Lewis Carroll et qui relie directement Lewis Carroll au psychédélisme. Je pense à la chanson des Beatles,
oui.
I Am the Walrus,
oui,
I Am the Walrus, pardon pour l'accent. et puis même plus tard, on retrouve des références toujours, une chanson de Radiohead qui s'appelle Paranoïde Android, où il répète la phrase Off with the Head, la phrase de la reine. Je pense aussi au film Matrix, lorsque le personnage de Neo descend dans les arcanes de ce monde-là, on lui dit you're going down the rabbit hole, vous descendez le terrier du lapin. Et tout ça sont des références à Lewis Carroll qui prouvent d'ailleurs que Lewis Carroll a complètement imprégné la culture dans son ensemble.
Alors on pourrait croire qu'il y a un dossier Lewis Carroll dans le Nouveau Magazine Littéraire, il n'en est rien.
C'est pas
je
le
veux
cas.
Poser la question juste comme ça. Vous parlez dans le Nouveau Magazine Littéraire des écrivains de la mer.
Et oui, ce mois-ci, Mathieu, nous hissons la grand voile et nous prenons le large pour aller parler de quelques grands romanciers de mer. C'est-à-dire que nous parlons de Conrad, de Melville, de Stevenson, de Jack London et de Defoe. Alors, on a beaucoup de chance pour ce dossier parce que ça commence par une nouvelle d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, tirée d'un recueil qui s'appelle Les Encantadas, qui est consacré aux Galapagos. En fait, on était en contact avec Thierry Gillibeuf et Christian Garcin qui sont en train d'entreprendre une vaste retraduction de toutes les nouvelles de Melville. Ils nous ont gentiment donné cette traduction d'une nouvelle méconnue qui est absolument étonnante parce que c'est une Robinsonade mais qui se centre sur vraiment un affreux personnage, un Robinson ivrogne, répugnant et par ailleurs complètement mégalomane. Et il a vraiment existé, hein. il s'appelait Oberlus, mmh. Et il essayait d'escroquer en fait les passagers des vaisseaux qui accostaient sur son île. Voilà.
Il a tout pour plaire.
L'histoire est géniale. Et puis bien sûr, on peut pas s'arrêter là avec Melville, donc on continue avec Moby Dick. On a un grand papier de Thierry Gillibeuf, donc il plonge dans les entrailles de Moby Dick, littéralement, qui nous raconte un petit peu aussi la carrière de marin de Melville, qui a duré juste 5 ans, mais Melville a un petit peu exagéré cette carrière pour vendre le projet de Moby Dick. Il rappelle aussi le fait marin qui est à l'origine de Moby Dick, qui est le naufrage de la baleinière l'Essex en 1820, qui était littéralement coupé en deux par un cachalot en colère. Et voilà, il s'agissait de mettre en scène un petit peu ce mythe littéraire qui nous poursuit toujours.
Alors un autre écrivain de mer incontournable que vous traitez, évidemment, c'est le grand Joseph Conrad.
Et oui, le grand Joseph Conrad, auteur de Typhon et notamment d'Au cœur des ténèbres, qui n'est pas un roman marin par ailleurs. Alors Conrad, lui, il a eu une histoire très curieuse, parce que vous savez, c'est un enfant de la noblesse polonaise, il est né dans la Pologne à l'époque sous domination russe, et il rêvait d'être marin, Conrad, ce qui est très étonnant pour un fils. Voilà. Et bref, il a tout fait pour devenir marin, il est parti à Marseille, il a attendu des engagements, il a été engagé dans la marine française, vraiment au rang le plus bas. Et puis après, il n'a pas pu rester dans la marine française parce qu'en fait, comme la Pologne était sous domination russe, il était considéré comme citoyen de Russie et les Français ne pouvaient pas le garder dans leur marine. Et donc, il est passé aux Anglais. Et là, il a grimpé les échelons jusqu'au grade de capitaine. Et surtout, cette carrière de marin lui a donné à la fois une langue, qui est cette langue extrêmement précise, et une esthétique. Conrad cite plusieurs fois des manuels de navigation. Il parle d'un texte notamment, dans un texte qui s'appelle En dehors de la littérature, il parle d'un livre qui s'appelle Les instructions nautiques. Et dans Au cœur des ténèbres, d'ailleurs, le personnage de Marlowe retrouve un manuel de navigation. Et en fait, il semble que l'idéal de Conrad aurait été d'écrire un texte dont la précision, l'exactitude aurait égalé celle de ses manuels. Conrad nous dit, si jamais vous vous trompez dans l'écriture d'un manuel nautique, les conséquences sont dramatiques. Voilà, ça vous provoque des naufrages. Donc, il aurait aimé écrire des livres qui aient cette précision. Et puis, ce goût de la précision, ce goût de la sobriété, de la forme brève et nette, ça donne un personnage. Ça donne McQueer, qui est le grand capitaine de Typhon. McQueer, vous savez, c'est un personnage, au départ, il apparaît complètement falot et complètement étriqué. Juste un exemple, lorsque son bateau change de pavillon et qu'il troque le pavillon anglais pour le pavillon de Siam, les marins anglais sont furieux. McQueer, lui, voit pas le problème, parce que le drapeau, après tout, est accroché dans le bon sens. N'empêche que c'est cet esprit étriqué, sans imagination, incapable de comprendre une plaisanterie et qui refusait les figures de style, par ailleurs, dans le discours, qui va sauver le bateau du typhon.
Allez, encore d'autres petites choses dans ce dossier?
Oh oui, alors il y en a plein, je suis désolé, je pourrais te continuer très longtemps, mais je vais pas le faire. On a un ensemble sur Daniel Defoe, qui est remarquable, par Guillaume Pigard de Gurbert.
Ça s'impose.
Voilà, ça s'imposait. On a un ensemble sur Stevenson, par Jean-Jacques Grave, qui a fait une très belle nouvelle traduction, L'île au trésor. Vous savez, Mathieu, avant, jusqu'il y a peu, les marins de L'île au trésor, les pirates de L'île au trésor, s'exprimaient dans un français extrêmement châtié. Ce qui était triste, parce qu'en anglais, leur langue est complètement brisée. Et Jean-Jacques Greif a retranscrit cette langue brisée, et ça donne un volume vraiment excellent. Et puis, j'ai fait aussi un texte sur Jack London, écrivain de mer. L'œuvre marine de Jack London est moins publicisée que son œuvre du Grand Nord, par exemple. Mais voilà, il a écrit cet extraordinaire recueil qui s'appelle Contes des mers du Sud, qui raconte en plusieurs nouvelles vraiment le choc des cultures entre les Iliens et ce qu'il appelle le fatidique homme blanc.
Bon, et puis on va laisser vos lecteurs découvrir ce qui reste. Merci beaucoup.
Il nous reste beaucoup.
Alexis Broca, on retrouve votre signature dans les pages du nouveau magazine littéraire.